10 minutes avec.
Radio Grenouille. 10 minutes avec.
La rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Isabelle Ray, habitante de l'habitat couleur d'orange à Montreuil, Seine-Saint-Denis. Vous participez aux rencontres internationales de l'habitat participatif à Marseille. Qu'est-ce qui vous a poussé en 86 à vous lancer dans l'aventure habitat participatif?
Alors à l'époque, moi je travaillais dans une association de consommateurs qui s'appelle, à l'époque ça s'appelait Confédération syndicale du cadre de vie qui militait pour le logement. Maintenant ça s'appelle, on a retiré le mot syndicat, maintenant ça s'appelle Consommation logement et cadre de vie, la CLCV. J'étais permanente de la Fédération de Paris et donc je conseillais beaucoup de gens sur le logement. Et mon compagnon, qui est aujourd'hui mon mari, on voulait, à l'époque, il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement pour l'habitat groupé autogéré. Et un jour, je reçois une convocation, à une réunion, et puis avec un tout petit poste PS en disant « Cherchons groupe pour compléter projet ». Alors j'ai dit à mon mari « Bon, on va aller voir ». Et on voulait faire ça plutôt avec des amis à nous. Et je lui dis, on va aller voir pour voir comment ils font. Et puis finalement, on a intégré ce groupe on est 14 et qui avait déjà un lieu.
Vous étiez 14 à l'époque ou vous êtes 14 aujourd'hui maintenant?
On est 14 à l'époque, enfin 14 foyers. Hein.
14 foyers, oui.
Voilà.
D'accord, 14 foyers. Donc en fait, ça fait beaucoup plus en nombre
d'habitants. En nombre de gens, les foyers, ils vont de 1 à l'époque à 6 personnes, puisqu'il y avait des couples qui avaient 4 enfants.
Et à l'époque, la construction, l'élaboration donc, d'un habitat participatif était assez différent du modèle d'aujourd'hui.
Ce qui est différent par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on avait beaucoup moins de préoccupations écologiques. Donc on n'a pas fait un habitat écologique. Et puis, on a fait en autopromotion, on était moins accompagnés, coachés, qu'il n'y avait pas toutes ces associations qu'il y a aujourd'hui.
Parce que la coopérative d'habitants, qui est l'autre tendance dans l'habitat participatif à côté de l'autopromotion, n'existait pas encore ?
Non, comme c'était plus moi qui étais versée dans les questions juridiques, on a un peu étudié le système, on a hésité entre l'indivision, la société civile immobilière ou la copropriété. Et en fait, à l'époque, c'est les banques qui voulaient pas financer des parts sociales de société civile immobilière qui nous ont poussés vers la copropriété. On a choisi ce statut juridique pour des raisons, pour les financements, quoi.
À quoi il ressemble votre habitat participatif ?
En fait, c'est une usine qui était désaffectée depuis des années, qu'on a rachetée. Et c'est un bâtiment en U autour d'une cour et qui a R+2. Et on a plutôt coupé le bâtiment en tranches, c'est-à-dire que les appartements donnent sur la cour et sont soit en duplex, soit en triplex. Donc il y a beaucoup d'escaliers, de coursives. Et moi qui ai visité beaucoup d'habitat participatif, c'est souvent comme ça, c'est des architectures un peu compliquées où les duplex s'entremêlent, où il y a des... Et avec, donc, on a une grande salle commune, un jardin commun, et c'est sur une espèce de parcelle assez étroite, traversante, qui donne sur deux rues parallèles. Et des terrasses privatives. Et donc, je pense que l'architecture des habitats participatifs essaye de concilier des parties communes, collectives, mais pas ouvertes quand même complètement sur le quartier, et des parties d'intimité.
Et l'habitat participatif, c'est faire passer l'intérêt général avant les intérêts individuels. Est-ce qu'il y a des moments où ça peut... C'est pas forcément évident, j'imagine.
Non, je confirme. L'habitat participatif, pour moi, c'est deux choses. C'est concevoir soi-même ses lieux de vie et c'est avoir des espaces partagés et des valeurs partagées. Nous, on était plus dans l'informel, on n'a pas signé de charte, etc. Donc, c'était plus flou. Et effectivement, on a eu des conflits. Alors, il y a une espèce d'élan, d'enthousiasme pendant la phase de préparation où on se réunissait toutes les semaines. On apportait des clémentines et du vin rouge. C'était notre... Et puis après, on s'installe. Et là, il peut commencer à avoir un peu les conflits, des petites déceptions, et puis les aigreurs des uns ou des autres. Et donc, il y a toute une part de gestion du groupe. Nos décisions sont quand même toujours prises au consensus, même si parfois, il y a des gens qui sont pas d'accord. Ce que je trouve bien avec le recul qu'on a fait, c'est donc on est une copropriété classique avec un syndic, mais c'est nous qui gérons, et un syndic bénévole qui tourne. Comme on est 14, ça revient en principe une fois tous les 14 ans, donc c'est quand même gérable. Dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, parce que il y en a qui sont pas là, etc. Donc ça revient peut-être un peu plus que tous les 14 ans, mais je trouve que c'est très sain d'avoir cette responsabilité qui tourne.
Et l'esprit de l'habitat participatif se transmet de génération en génération, je ne sais pas, à vos enfants, aux enfants des autres couples qui auraient pu être là?
Alors là, on est dans la phase, on était un petit peu près tous du même âge. Quand nos enfants, beaucoup sont partis, enfin, il reste plus qu'un, je crois. Ils ont grandi, ils sont partis. Quand une de mes filles revient, elles disent qu'ici c'est une maison de retraite. Et les enfants, bon, c'est les grands gagnants. Hein, ils ont été très heureux, ils ont beaucoup joué dans cette cour, les matelas traversaient la cour, c'était très sympathique. J'avais nos voisins d'en face ont quatre filles, j'avais une chambre pleine de filles tout le temps. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'ils vivent leur vie, ils sont contents de se retrouver, mais je dois dire qu'ils ne se fréquentent pas forcément énormément, un petit peu, mais pas tant que ça. Et donc on verra si eux, ils refont un habitat participatif, mais j'en suis pas sûre.
Mais c'est quand même donc une expérience qui les a marqués, j'imagine, c'est quelque chose auquel ils ont été attachés.
Oui. Un jour, on avait parlé de déménager, et ma fille la plus jeune a dit « Non, moi, je ne veux pas quitter ma cour ». Ma maison, mon école, elle avait bien mis la cour en premier.
Pour revenir un peu sur on va l'appeler ça votre communauté, j'imagine qu'il a fallu la faire quand même évoluer entre le moment où vous êtes installée et aujourd'hui.
Nous sommes d'une stabilité incroyable. Oui, il y a eu quelques évolutions. Il y a eu des couples qui ont divorcé, mais souvent l'un des deux est resté. Il y a eu un décès, deux décès, et il y a eu une vente, non deux ventes, et c'est plutôt par cooptation que les successeurs sont arrivés, mais globalement on a un peu tous les mêmes du départ, 30 ans après quasiment.
Et les leviers financiers étaient aussi complexes qu'ils sont aujourd'hui?
Bah oui, parce que on avait des financements et on a dû adapter notre structure juridique au financement. Mais en fait, nous, chaque personne a financé sa part. C'est donc un financement beaucoup plus classique, sans péréquation, sans choses particulières. Donc d'une certaine façon, c'était assez simple. Et effectivement, on n'a pas de clause anti-spéculative. Donc, quand les gens revendent, ils revendent au prix du marché, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que ce sera, quand on aura revendu, ce sera plus un habitat participatif.
Ah, vous pensez revendre ?
Non. Oh là là, moi, je pense pas revendre, mais le jour où ça se fera, éventuellement, quoi.
Merci, Isabelle Ray.
Merci.
La rédaction des 3-8. 10 minutes avec...